Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous l'auteur méconnu d'un naufrage pourtant au moins aussi fameux que celui du Titanic, le vicomte Hugues Duroy de Chaumaret, capitaine de la frégate La Méduse, beaucoup moins célèbre que le radeau du même nom. Il a vraiment été refoulé aux oubliettes de l'histoire. Non seulement son nom ne dit plus rien à personne, mais il est très difficile, voire impossible, de trouver un portrait de lui. Sur Internet, si l'on saisit « Chaumaret » sur un moteur de recherche d'images, on tombe immédiatement sur la toile de Géricault ou bien alors sur une reproduction du radeau réalisé par l'un des survivants du naufrage. Mais Chaumaret, lui, n'existe plus. Il se confond avec le désastre dont il fut responsable. Il a disparu, comme dissous, aspiré par l'œuvre de Géricault. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose donc d'extirper ce triste sire de sa gangue de peinture. Seconde partie, le radeau de la Méduse. Sur le radeau, la situation se dégrade rapidement. Dès la première nuit, 20 hommes se sont suicidés ou ont été massacrés. Les infortunés naufragés se brisent les jambes entre les planches et les poutres dont est constituée leur embarcation de fortune. Quand la mer devient mauvaise, on s'agrippe désespérément les uns aux autres, on se bat pour ne pas être refoulé au bord du radeau. Les crises de violence vont devenir crises de folie, puis suicides de marins qui se précipiteront volontairement à la mer. Bientôt, l'eau potable vient à manquer. Assoiffés, les survivants sont réduits à boire leur urine. Affamés, ils vont tromper quelque temps leur faim grâce à une pêche miraculeuse de poissons volants. Mais bientôt, les quelques survivants en viennent à dépecer les cadavres. Ils font sécher au soleil les lambeaux de chair humaine et s'en nourrissent en silence, sans échanger un regard. 12 jours d'errance en mer vont faire de certains d'entre eux des assassins, de tous des cannibales. Voici à quel destin effroyable les a conduits l'incurie de Chaumaret. Lorsque l'Argus retrouve le radeau, il ne compte plus que 15 survivants, 15 miraculés, dont 5 mourront dans les jours qui suivent. Le drame a donc fait entre 142 et 144 morts. Mais si les survivants épuisés se comptent sur les doigts des mains, tous vont s'accrocher à la vie, mus par l'objectif commun de se venger de Chaumaret. Si l'Argus ne les avait pas retrouvés, il n'y aurait plus personne pour témoigner et l'incapable commandant aurait pu couler des jours heureux jusqu'à sa mort. Il aurait pu compter sur la solidarité et la discrétion des passagers des canots et des chaloupes qui, eux non plus, ne sortaient pas grandis de ce drame et n'avaient pas forcément intérêt à en dévoiler les tenants et aboutissants les moins avouables. Pouvait-on leur en vouloir? Quand il est question de vie ou de mort, se comporter noblement n'est pas donné à tout le monde. Dès son retour en France, le chirurgien de la Méduse, Savigny, l'un des survivants du radeau, rédige un mémoire dont le Journal des débats, journal anti-royaliste, publie l'intégralité le 13 septembre 1816 pour mettre sur la place publique l'archaïsme et l'incompétence de la marine royale. Le scandale est immense. Tous les journaux de l'époque, la Gazette de France, Le Temps, L'Union, Le Moniteur, lui consacrent leur une. Reniflant le filon, Coréard et Savigny vont publier leur propre récit de cette tragédie dans un livre de plus de 500 pages intitulé « Naufrage de la frégate La Méduse faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816 », livre édité chez Coréard. De géographe, naufragé, anthropophage, coréard, est en effet devenu éditeur prospère grâce à son premier livre, ce qui lui permet aussi d'ouvrir à Paris la librairie Au radeau de la Méduse. Dans le livre de Savigny et Coréard, Chaumaret est dépeint comme
le plus présomptueux, le plus incapable des marins de l'autre siècle.
Le ressentiment des auteurs envers lui est immense, violent, débordant. Leur récit est une pièce à conviction précieuse à verser au dossier en nullité de Chaumaret. Ils écrivent
« Il existe parmi les officiers de la marine un intraitable esprit de corps, un prétendu point d'honneur, aussi faux qu'impérieux, qui les porte à regarder comme une insulte faite à toute la marine la révélation d'un coupable. Ce principe insoutenable, qui n'est utile qu'à la nullité, à l'intrigue, aux gens les moins dignes d'invoquer le mot d'honneur, a, pour l'État et le service public, les plus funestes conséquences. Par là, l'incapacité et la bassesse sont toujours couvertes d'un voile coupable qu'on ose vouloir rendre sacré. À l'abri de cette loi d'un silence officieux, des gens sans talent survivent à toutes les révolutions, traînent dans toutes les antichambres leur incapacité privilégiée et se montrent d'autant plus âpres à enlever les faveurs et les honneurs qu'ils sont moins habiles à s'en rendre dignes. »
Mais les deux auteurs ont d'autres accusés dans leur collimateur. En plus de celle de Chaumaret, ils réclament la condamnation du gouverneur Schmalz, qui non seulement a menti en affirmant que la corde avait cédé, mais qui a attendu 2 jours après son arrivée à Saint-Louis du Sénégal pour prévenir les Anglais de ce qui s'était passé et envoyer du secours. Les survivants verraient également d'un assez bon œil que l'on juge du Bouchage, le ministre de la Marine, mais aussi l'officier de quart qui signala trop tard la chute à la mer du jeune mousse de 14 ans et l'officier qui refusa à Tenerife, au nom du commandant, d'embarquer les 6 malheureux prisonniers français qui croupissaient là depuis 8 ans et que les Espagnols étaient d'accord pour leur remettre. Ils demandent enfin la condamnation de tous les officiers qui les ont abandonnés sur le radeau après leur avoir juré sur l'honneur qu'ils les conduiraient jusqu'à terre. Bref, tout le monde en prend pour son grade. Jamais l'expression n'a trouvé aussi pertinente application. Mais celui qui va endosser à lui seul le massacre devant ses contemporains et devant la postérité, c'est Chaumaret. Pour lui, les survivants exigent une stricte application de la loi, laquelle, pour le méfait dont il s'est rendu coupable, prévoit la peine de mort. Le procès se déroule à bord d'un bateau ancré sur la Charente à Rochefort. Finalement, pour ne pas avoir reconnu le Cap Blanc, pour avoir échoué la Méduse, pour l'avoir quitté en laissant des hommes à bord, pour avoir abandonné le radeau, Chaumaret est rayé de la liste des officiers de la marine, interdit de servir, et il est condamné à 3 ans de prison militaire. Une peine de mort commuée en 3 années de forteresse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre naufrageur bénéficie là d'une peine particulièrement indulgente. Fallait-il que le pouvoir souhaitât étouffer l'affaire? Il l'avait d'ailleurs déjà clairement manifesté en laissant la marine britannique rapatrier en France des survivants dont on aurait vu d'un assez bon œil qu'ils restassent au Sénégal. Après sa condamnation, Chaumaret fait un séjour à l'hôpital militaire de Rochefort, puis est transféré au fort de Ham pour y purger sa peine. Pendant ses 3 ans de captivité, il écrit lettre sur lettre à la cour et à la ville pour pleurnicher sur son sort et sur la perte de son grade et de ses décorations. Il réclame à cors et à cris leur restitution, arguant de ses hauts faits à Quiberon. Rien n'y fait. Personne ne veut plus entendre parler de lui. Il est désormais persona non grata à Paris et les suppliques adressées au roi par quelques amis fidèles n'y changeront rien. Libéré le 3 mars 1820, il se retire donc sur ses terres. Se sent-il seulement un peu coupable de tout ce qui est arrivé? Sur le site de la municipalité de Vars-sur-Rosex, dans le Limousin, petite commune dont il était originaire, on peut lire
« Après la prison, Hugues de Chaumaret ne revient pas à Vars. Il se retira au château de Lacheneau, demeure de sa mère, où il mourut 25 ans après, le 23 novembre 1841. Pendant 25 ans, harcelé de remords, il fit pénitence, dormant sur un lit de sarment de vigne.
Bon, il est bien compréhensible que le syndicat d'initiative fasse feu de tout bois pour attirer les touristes à Vars-sur-Rosex, où les personnages célèbres ne courent pas les rues, à l'exception de Chaumaret et d'un vague écuyer de Louis XI. De là à faire de ce prétentieux naufrageur un humble pénitent, voilà qui nous semble aller un peu vite en besogne. Au reste, il nous a été impossible de retrouver cette anecdote du matelas de sarment de vigne ailleurs que sur le site de Vars-sur-Rosex. La petite ville de Bussière-Beaufy, où se trouve le château de Lacheneau, y va elle aussi de son couplet lacrymal sur son anti-héros local. « Les enfants de Bussière lui jetaient des pierres », peut-on lire sur son site. Que les Varsois et les Bussiéraux nous en excusent, mais la fréquentation de Chaumaret, triste sire tout à la fois lâche, menteur, incompétent, buté, autoritaire et peut-être même alcoolique, nous incite plutôt à penser qu'il dormit sur ses deux oreilles sur un bon matelas de plumes jusqu'à la fin de ses jours, en regrettant uniquement les breloques honorifiques dont il paraît indûment son poitrail avant le naufrage. Il y a une dizaine d'années, une bussiéraude passionnée d'histoire, Nicole Reynaud, s'est vue confier la correspondance de Chaumaret, qui jamais encore n'avait fait l'objet d'aucune étude approfondie. Son examen adoucirait sensiblement l'image terrible de cet homme exécré. Chose en tout cas totalement inattendue, on apprend dans l'une de ses lettres que Savigny, son principal accusateur, serait venu le voir au fort de Ham pendant sa captivité. Tous deux seraient tombés d'accord pour faire peser une partie de la responsabilité du désastre sur Joseph Reynaud, second de Chaumaret, qui non seulement ne fut jamais inquiété par la justice, mais fut promu commandant et reçut la croix de Saint-Louis pour avoir participé au sauvetage des rescapés restés sur l'épave de la Méduse. Dans une lettre adressée à sa famille, Chaumaret écrit que Savigny et lui-même partagent la même indignation à ce sujet. Par une étrange coïncidence, l'historienne de Bussière-Beaufy, qui a cherché à alléger la barque de Chaumaret en désignant un autre responsable du drame, porte précisément le nom de celui-ci, Reynaud, si ça n'est pas un clin d'œil du destin. Pour finir, venons-en au tableau de Géricault. Bien qu'il ait été exposé pour la première fois sous le titre politiquement correct de « scène de naufrage », il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté sur le drame représenté puisque Géricault fit poser et figurer Coréard et Savigny sur son œuvre. Le public français boudant le tableau, le peintre déçu le transportera en Angleterre où pendant des mois, les Anglais vont payer pour le contempler quelques instants. C'est aussi en Angleterre que cette toile est exposée pour la première fois sous son vrai nom, de Radeau de la Méduse. À ce stade de notre récit, il reste deux questions dont nous n'avons pas encore fait état jusqu'à présent. Pour ceux qui souhaiteraient se recueillir sur la tombe du naufrageur de la Méduse, où donc se trouve-t-elle? Eh bien, Chaumaret n'a pas de tombe. L'ancien cimetière d'église de Bussière-Beaufy, où fut très probablement inhumé Chaumaret, a été rasé en 1873. Les restes mortels de Chaumaret auraient donc été transférés dans l'ossuaire du nouveau cimetière? Madame Reynaud, historienne, fait état d'une tradition orale selon laquelle Chaumaret aurait pu être enterré dans une commune limitrophe car sa famille craignait que sa tombe ne soit profanée. De fait, son déshonneur rejaillissant sur sa famille mit celle-ci sur la paille. Le château de Lacheneau devant être saisi, Charles, l'un des fils de Chaumaret, s'y donna la mort. Seconde question. Pour quelle raison la Méduse se trouvait-elle amarrée en rade de Rochefort avant son départ pour le Sénégal? La réponse est assez piquante. Comme elle était l'un des bateaux les plus modernes et les plus rapides de la flotte française, elle y attendait un passager de marque, en la personne de l'empereur Napoléon. C'est elle qui devait lui permettre, ainsi qu'à sa suite, de gagner l'Amérique. Malheureusement, les Anglais, encore et toujours eux, surveillaient le port et avaient posté au large la frégate l'Agamemnon, prête à arraisonner la Méduse si celle-ci tentait de quitter Rochefort. Quand on pense qu'au lieu de finir sur un banc de sable avec Chaumaret, la Méduse aurait pu cingler vers l'Amérique, avec Napoléon. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. J'ai écrit et raconté pour vous l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.